Cher professeur du Collège de France, je suis flatté d'être ici et je suis ému par l'honneur que vous me faites et la distinction que vous m'accordez de pouvoir vous parler ce soir. Et je dois vous dire que ma mère, si elle était encore vivante, serait très contente de vous me voir parler ici. Je suis mouillancé et je le fais comme ça.
Une pointe d'émotion dans une institution pluricentenaire, c'était le 28 mars dernier, la leçon inaugurale de Salikoko Mufwene, nouveau titulaire de la chaire annuelle Monde francophone au Collège de France, avec un sujet de prédilection, les dynamiques langagières dans l'univers francophone. Monsieur le professeur, bonjour.
Bonjour.
Avant de nous raconter les grands axes de votre enseignement et de vos recherches, quelques mots, si vous en êtes d'accord, sur votre parcours de linguiste. En quelle langue vous parlez votre mère que vous avez saluée pour cette leçon inaugurale ?
Ma mère m'a parlé dans deux langues, Kiansi, qui est ma langue ethnique, et le Kikongo Kituba, qui est le vernaculaire de la petite ville où j'ai grandi. Et j'ai grandi bilingue avec deux langues maternelles.
Et le français est arrivé beaucoup plus tard.
Oui, j'ai appris le français comme sujet à partir de la quatrième année primaire. Et déjà vers la sixième année primaire, j'ai commencé à recevoir l'enseignement en français comme médium d'enseignement. Et puis, au fur et à mesure, j'ai appris un peu plus de français jusqu'au moment où je suis allé aux États-Unis en 1974. Et là, je devais prendre mes cours en anglais et je parlais de moins en moins français. Et maintenant, je suis en train de réanimer mon français, le réactiver.
Quelque chose vous prédisposait à vous intéresser aux langues alors que vous êtes un petit garçon comme ça dans cette petite ville, dans ce village, je ne sais pas à quoi ça ressemble, Mbaya Laremé, où vous naissez ?
Oui, Mbaya Laremé, là-bas personne ne parlait français. C'est à Bagata où j'ai grandi, où il y avait les instituteurs de l'école primaire qui parlaient français, mais qui parlait aussi Kiansi et Kikongo Kituba. Et c'est vraiment quand je suis allé au pensionnat, c'était un séminaire où je devais évoluer plus en français que dans ma langue maternelle. Mais ce qui s'est passé à l'école, dans les classes, les prêtres nous parlaient en français, et puis une fois en dehors de ça, on parlait Kituba.
Mais est-ce que vous rêviez d'être linguiste, de passer votre vie à étudier les langues ?
Non.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé ?
C'est la sérendipité. au séminaire, j'étais un peu turbulent et je posais toujours des questions. On m'a traité d'insubordiné et on m'a insubordonné et on m'a expulsé du séminaire et je me suis retrouvé dans un autre pensionnat, le collège Saint-Paul, dans la ville de Bandundu, qui était dirigé par les mêmes missionnaires SVD. Et là, mes options, c'était de faire les humanités et donc j'ai fait la littérature française et j'ai appris l'anglais. Puis je suis allé à l'université. Et quand je suis allé à l'université, j'ai choisi de me spécialiser en philologie anglaise. Je faisais la philologie avant même que je sois capable de bien parler anglais. Et puis je suis allé aux États-Unis, voilà.
Donc c'est quand même un sacré parcours de partir de cette petite ville du Congo à Chicago où vous enseignez aujourd'hui et où vous êtes depuis 1974 puisque vous y avez fait vos études, mais vous êtes aussi titulaire d'une chaire et aujourd'hui vous êtes invité au Collège de France. Les langues, vous dites que ce sont comme des virus. Et ce que vous nous racontez, c'est déjà votre histoire, c'est-à-dire que vous apprenez les langues au contact des autres.
Oui, J'ai développé ce modèle parce que j'essayais d'expliquer d'abord comment les créoles ont émergé et évolué. Et j'ai trouvé que dans la littérature, on tendait à parler des langues comme s'ils étaient des organismes, comme si elles étaient des organismes. Et j'ai dit, c'est pas possible parce que si elles étaient des organismes, il n'y aurait pas de variation dans les langues. Et la comparaison la plus proche, c'était l'espèce biologique. Mais il se fait qu'il y a plusieurs modèles d'espèces biologiques. Et l'espèce que j'ai trouvée la plus proche, ce sont les virus. Et les virus, parce qu'il y a transmission horizontale. Et une fois qu'on on abrite un virus, le virus s'adapte à son corps. Et c'est la même chose qui se passe avec les langues. On apprend une langue et la langue est adaptée à soi-même.
Et puis, il peut y avoir contamination.
Il peut y avoir des influences étrangères, mais aussi parce que pour apprendre une langue, on ne la reçoit pas d'une personne et en fait, on ne la reçoit pas construite déjà. Si quelqu'un était jamais paresseux, il n'apprendrait jamais à parler. On apprend inconsciemment en interagissant avec les gens. Petit à petit, mot par mot, plutôt certaines structures à certains moments et à des moments différents. Mais on reçoit les inputs des locuteurs différents, de plusieurs locuteurs. En biologie, c'est connu comme polyploïdie. Et ça m'a beaucoup intéressé parce que c'est la même chose pour les virus. Et si on ne devient pas facilement malade, si on attrape le virus d'une seule personne, mais si il y a plusieurs personnes qui portent le virus et qu'on le reçoit, bon, on reçoit le virus, mais de plusieurs façons, et on fait un virus différent en même temps. C'est comme ça que ça se passe pour les langues aussi.
On est déjà donc au cœur, Salikoko Mufwene, de votre enseignement, de vos recherches avec ces premières explications. Alors, au Collège de France, lors de votre leçon inaugurale, vous avez utilisé quelques formules comme quoi vous êtes un peu américain. Vous avez dit, je vais faire une big picture, c'est-à-dire faire une présentation grand angle. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui dans Deux Vives Voix. Mais tout d'abord, on va écouter Blundetto et Pupa Jim. C'est une forme de puisque c'est un Breton et un Bourguignon qui font du reggae.
J'écris et je gomme.
Toto et Pupa Jim sur RFI avec Tankerville, nom de la chanson et de l'album. Professeur Salikoko Mufwene, vous avez le temps d'écouter de la musique et est-ce que la chanson peut rentrer dans le champ de vos recherches sur les langues?
Oui, c'est très intéressant parce que quand on voyage surtout dans les colonies, il y a de nouvelles formes de musique qui ont émergé. Et on voudrait bien expliquer comment ces nouvelles formes ont émergé, mais évidemment à partir de contacts de style. Mais là, il faut considérer plusieurs choses. Par exemple, l'instrument peut être européen, mais le rythme n'est pas nécessairement européen. Et évidemment, les chansons elles-mêmes, elles sont originales par les gens qui vivent dans le milieu. Les lyriques, les thèmes des lyriques ne sont pas nécessairement européens non plus. Et on veut expliquer pourquoi. Et là, on trouve aussi des complications. Quand on pense, par exemple, des musiques afro-américaines et qu'on dit, voilà, c'est de l'influence africaine, et on doit se poser la question de savoir quelle partie de l'Afrique.
C'est jamais simple, en fait.
Il y a influence africaine, mais il faut savoir comment l'influence africaine a pénétré cette musique et s'est introduite dans cette musique. Et il se fait qu'il y a des contraintes qui sont imposées par un instrument. Si, par exemple, on veut chanter l'hymne national d'un pays, si on utilise, disons, un piano, par rapport à quelqu'un qui utilise une fanfare, on n'entendra pas la même musique parce que chaque instrument impose ses contraintes sur la façon dont il faut faire la musique.
Et il faut dire les textes.
Et ce sont la musique est hybride comme la langue elle-même est hybride.
Donc rien n'échappe au linguiste que vous êtes. Vous voilà donc aujourd'hui, Salikoko Mufwene, au Collège de France pour un cours, puisque c'est un lieu d'enseignement, intitulé « Mouvement de population, contact des langues, évolution linguistique ». C'est donc un cours sur la créolisation, sachant que, mais j'enfonce peut-être là des portes ouvertes, pour vous, il n'y a pas de langue pure. C'est une abstraction totale, une langue pure.
Oui, et c'est une abstraction. Une langue elle-même est une abstraction pour commencer. Une langue n'est pas plus réelle qu'une espèce biologique ne l'est. Ce sont des construits de convenances pour qu'on puisse faire bien interpréter certaines choses ou essayer de les comprendre. Et donc, dans la vie humaine, nous sommes toujours en contact. Par exemple, maintenant que nous interagissons l'un avec l'autre, on peut s'influencer mutuellement, mais il y a des relations de pouvoir et d'autorité. Vous avez plus d'autorité dans votre langue que moi, alors je fais attention à la façon dont vous parlez.
Mais vous avez beaucoup plus d'autorité que moi en matière universitaire et de savoir.
Bon, justement, alors ça, je ne veux pas l'accepter aussi facilement. Mais ce qui se passe, c'est que on fait attention l'un à l'autre, on s'accommode l'un à l'autre, et entre-temps, on reçoit des influences l'un de l'autre, et quand on est un groupe, la question se pose de comment nous arrivons à certaines normes que nous voulons suivre. Mais seulement, est-ce que les normes sont une illusion, que tout est en mouvement?
Tout est en mouvement, et votre cours est très surprenant, votre leçon inaugurale était très surprenante parce que pour parler de la créolisation des langues, vous revenez au latin et au français. Est-ce à dire que le français est un créole?
Non. En fait, si on raisonnait comme ça, toutes les langues du monde seraient des créoles. Toutes les langues modernes du monde, on pourrait les appeler créoles. Et ça ne sert à rien parce que si on va dans cette direction, ça signifie que créole ne signifie rien d'autre que langue.
Alors, c'est quoi un créole? C'est quoi les créoles?
Les créoles, tels que je les comprends, ce sont des nouvelles variétés langagères qui ont émergé dans les colonies de peuplement, les colonies européennes de peuplement, où l'industrie principale était l'agricole, en particulier la canne à sucre, et à certains endroits, le riz. Et le populations qui ont produit ces nouvelles variétés sont surtout d'origine non européenne. Et on les appelle créoles parce qu'on prétendait au 19e siècle et même au cours du 20e siècle que les créoles étaient des variétés bâtardes, qui n'étaient plus de langue indo-européenne, mais en même temps, on peut dire qu'ils ne sont pas des langues africaines non plus, ce sont des nouvelles variétés. Et au 19e siècle, il y avait une certaine idéologie qui se méfiait des hybrides, des espèces hybrides. Et donc, une langue qui paraissait hybride était considérée comme n'étant pas une vraie langue.
Mais aujourd'hui, vous avez complètement revu cette perception-là dans vos recherches.
Oui, en fait, pour moi, c'est une idée que j'apprends d'un Autrichien, un linguiste autrichien, philologue autrichien du 19e siècle, Hugo Schuchart. Et il a dit que les créoles nous incitent à revoir comment les langues romanes elles-mêmes ont évolué. Et quand on revoit l'histoire des langues romanes, ce n'est pas une simple histoire où le latin a été exporté dans les provinces de l'Empire romain, et puis les populations dans l'Empire romain ont adopté le latin et elles l'ont transformé. Et de là, nous avons ce qu'on appelle français, provençal, espagnol, etc., le portugais. Et donc, les gens ne font pas vraiment, n'invoquent pas le contact des langues. Parce qu'après tout, le latin est entré en contact avec des langues celtiques qui les avaient précédées. Et les langues celtiques, la plupart d'elles ont disparu maintenant, mais elles ont exercé une influence dans la façon dont les colonisés dans les provinces de l'Empire romain ont parlé le latin. Et avec le temps, au fur et à mesure, ce latin est devenu de plus en plus différent. Et c'est ainsi que, pour simplifier les choses, on peut parler des langues romanes qui ne sont plus le latin. Mais si on est subversif, on pourrait appeler les langues romanes des variétés néolatines.
Donc tout ça est en mutation perpétuelle. Oui. Bien au sûr. Contact des hommes, sachant que, vous l'avez rappelé lors de cette leçon inaugurale, la population homo sapiens, le principal même, le gène majeur de l'homo sapiens, c'est-à-dire ce que vous êtes, ce que je suis, c'est d'être un migrant. C'est une population migrante.
Oui.
Et donc forcément, ça laisse des traces dans la langue et dans la façon de nous exprimer et de communiquer entre nous.
Nous sommes des migrants depuis l'exode de l'Afrique il y a peut-être 100 000 ans, peut-être seulement 50 000 ans, qui le sait. Et puis, on suit cette histoire, et surtout au cours des dernières 6 000 années, on voit qu'il y a des empires qui émergent partout et des empires qui disparaissent. Mais les empires, ils manifestent une forme de colonisation. C'est une population qui colonise d'autres populations et les réunit, et on appelle la réunion un empire.
Donc c'est une colonisation perpétuelle et mutuelle. L'histoire de l'humanité depuis 6 000 ans au moins.
Les Européens se sont colonisés entre eux. Et puis les Européens sont partis coloniser l'Afrique. Les Chinois ont colonisé une grande partie de l'Asie. Et les Bantous ont colonisé certaines autres populations africaines, en particulier les Pygmées et les populations Khoi et populations San.
Et tout cela, ça donne la diversité linguistique aujourd'hui.
Oui.
Alors parlant de créolisation, forcément, moi je pense au grand poète qui est Édouard Glissant, né en Martinique, et qui a fait de ce concept, la créolisation, l'axe de sa réflexion et de son œuvre.
Tous les lieux d'archipel, tous les lieux de rencontre, tous les lieux de créolisation, tous les lieux où des contenus culturels se touchent, se heurtent, s'affrontent et se marient et donnent lieu à quelque chose de nouveau, d'imprévu. C'est ça le résultat de la créolisation. Mais quand on sent que le monde va vers autre chose, eh bien, on se braque sur ces positions-là et on devient absolument intolérant. Et je pense que toute littérature, toute poésie ou toute esthétique qui contribue à mettre en évidence la créolisation du monde, contribue par là même à combattre les intolérances et les sectarismes du monde.
Salico Komoufouéné, que pensez-vous des propos d'Edouard Glissant ?
Ça fait beaucoup de sens, à la seule différence que je ne voudrais pas parler de créolisation, parce que créolisation, pour moi, ça devient creux. Le terme, le concept de créolisation devient creux dans ce sens que on ne voit rien dans ce qu'on appelle créolisation qu'on ne peut pas observer dans les autres langues.
C'est-à-dire ?
Ça signifie que la créolisation, c'est une forme d'hybridation. Et les autres langues sont aussi des produits d'hybridation. Et comme je disais tout à l'heure, si on disait que le français, c'est un créole, ça signifie que la plupart, toutes les langues modernes du monde sont des créoles. Et ça signifie que créole, ça signifie langue. Donc, créolisation, qu'est-ce que ça signifie ? C'est devenir une nouvelle langue, devenir une nouvelle culture. Et moi, je préfère parler d'hybridation partout, plutôt.
Alors, vous parlez d'hybridation, vous vous intéressez au créole, mais dans votre cours au Collège de France, Salico Komoufouéné, vous allez travailler aussi sur l'évolution du français, ou plutôt des Français. C'est Alain Maboncou qui dit que le français est une langue africaine. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ?
Ben, ça dépend si vous écrivez en français, vous gagnez une vie en français. Sinon, il y a une très grande proportion des populations africaines qui ne parlent pas français.
Et qui ne gagnent pas sa vie en français.
Exactement. Et donc, moi, je vais vous raconter une anecdote. J'étais à une conférence au Japon. Et dans ce contexte-là, nous discutions le rôle de l'anglais autour du monde. Et puis, une des conférencières a dit « Maintenant, l'anglais est devenu une langue japonaise. » Et je lui ai dit « Ça ne fait pas beaucoup de sens. » À cette conférence ici, quand les Japonais me parlent, ils utilisent l'anglais. Mais quand ils se parlent entre eux, ils n'utilisent pas l'anglais, ils utilisent le japonais. Mais j'ai dit « Nous allons tester votre hypothèse. » Et j'ai posé une question à l'audience. « Qui parmi d'entre vous pense que l'anglais est une langue japonaise ?»
Personne.
Deux doigts. Deux mains étaient levées. Et il se fait que les deux mains étaient des anciennes étudiantes de la professeure.
En effet. Donc le français n'est pas tout à fait une langue africaine, si je vous comprends bien. Est-ce que c'est une langue en Afrique en expansion ou en recul ? Parce que vous accusez d'une certaine façon l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, de mensonge quand elle annonce 300 millions de francophones aujourd'hui et certainement le double d'ici 50 ans.
Oui, mais quand on compte le nombre de francophones, est-ce que le nombre de francophones en République démocratique du Congo correspond à toute la population de la République démocratique du Congo ou seulement à une fraction de la population? Et quand on parle de la fraction qui parle français, quelle est la proportion de ces gens qui parlent français comme langue maternelle et qui utilisent le français comme leur vernaculaire de base par rapport à d'autres qui utilisent le français seulement comme une langue seconde ou une troisième langue ou une quatrième langue?
Donc la réponse est dans la question en fait. Oui. La réponse est non. Alors vous enseignez en quelle langue d'ailleurs à Chicago ?
J'enseigne en anglais.
En anglais, même quand vous parlez de francophonie ?
Oui, et la plupart de mes publications sont en anglais.
Alors, au Collège de France, vos cours sont en français, puisque vous occupez la chaire des mondes francophones au pluriel,
oui.
Chaire qui a été créée par l'Agence universitaire de la francophonie et inaugurée en 2018 par l'écrivaine haïtienne Yannick Lins.
Faire advenir les mondes francophones exigera de passer par de nouvelles narrations qui rendront plus audibles les savoirs, les cultures, donc les altérités qui les constituent. Très vite, je reliais l'absence de cet enseignement à l'ampleur de l'ignorance autour de l'histoire d'Haïti. Si j'étudiais Rimbaud, Sophocle, Camus, Faulkner, Dostoïevski avec une curiosité jamais rassasiée, les écrits haïtiens constituèrent ce socle intime sur lequel j'appris à tenir debout, sans apitoiement sur moi-même, dans cette conversation infinie avec toute la littérature. Je m'initiais au déchiffrement amoureux des grands classiques haïtiens, Marcelin, Despestre, Brière, Alexis, Roumain, Saint-Aude, Chauvet, et essayais de cerner les fondements de leur absence dans les cursus français à la lecture de penseurs haïtiens comme Anténor Firmin, Jean Fouchard, Jean Price-Mars. Autant d'écrivains et de théoriciens que sans doute vous entendez citer pour la première fois, mais dont les mots en français ont construit beaucoup d'entre nous de l'autre côté de l'Atlantique.
Yannick Lahens, dont la leçon inaugurale portait ce beau titre « Urgence d'écrire, rêve d'habiter », tout cela au pluriel. Alors vous lui succédez au Collège de France, Alikoko Moufouéné. Est-ce que vous partagez ce rêve d'un espace francophone qui nous unirait et qui nous ferait à égalité d'une certaine façon en termes de référence et de langue ?
Diversité, oui, je suis d'accord avec ça. Mais il se pose une question de base fondamentale ici. 90%, si pas plus, d'Haïtiens ne parlent pas français. Ils parlent créole. Et est-ce que le créole est un dialecte du français ou est-ce que le créole est une langue séparée? Et ça, c'est une question à laquelle seuls les Haïtiens peuvent répondre. Parce que c'est à eux de déterminer s'ils veulent prétendre qu'ils parlent les 90%, s'ils veulent prétendre qu'ils parlent français ou s'ils veulent dire qu'ils parlent une langue étrangère. En ce moment, si ce sont surtout les linguistes qui se prononcent là-dessus, et je ne fais pas confiance aux linguistes,
vous ne faites pas confiance aux linguistes?
Non, c'est-à-dire qu'un linguiste n'a pas l'autorité de dire à quelqu'un « vous ne parlez pas telle langue ». Parce que je ne vous comprends pas. Ce n'est pas aux linguistes de dire ça. Mais le problème qui se pose maintenant au sein de la francophonie, est-ce que toute la population haïtienne compte comme une population francophone ou ce sont seulement les 5 à 10% de la population haïtienne qui parle français, qui doivent se proclamer francophones?
En conclusion de votre leçon inaugurale, vous avez déclaré « une langue est un dialecte qui dispose d'une armée et d'une marine ».
Oui. Ça signifie que une façon de parler est reconnue comme une langue lorsque elle est associée à une population et que la population a des institutions qui fonctionnent dans cette langue aussi. C'est comme ça que le français est une langue et le haïtien est aussi une langue, mais on se demande si c'est une langue française, comme disons le provençal, ou si c'est une langue complètement différente. Et mon idée, c'est qu'on doit faire une distinction entre les considérations génétiques de filiation et le statut du parler.
Merci beaucoup, Alikoko Moufouéné. Vos cours sont bien sûr à suivre sur le site du Collège de France. De vive voix, à très vite.